1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Puisse le Seigneur nous accorder la lumière de son Saint-Esprit pour que l'on puisse comprendre ce qui est contenu dans ses paroles pour nous, c'est ma prière. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais aborder un sujet qui fera partie de ces sujets qui vont décider du sort futur de notre vie. La manière dont on réagira à ces choses qui viennent de la parole de Dieu vont façonner notre réponse envers Dieu. La fin du monde, elle n'est pas comme nous pourrions le penser. Elle n'est pas comme dans les films. Au contraire, la fin du monde, c'est une période. C'est un laps de temps durant lequel Dieu éprouve ses enfants, durant lequel Dieu éprouve ceux qui professent croire en lui et qui professent l'aimer. Et c'est un laps de temps, une période durant laquelle il leur montre leur péché, leurs défauts, leurs imperfections, leurs terribles travers, et les appelle à se repentir et à suivre l'exemple opposé à leur vie, qui est l'exemple de Jésus-Christ, à suivre son exemple de renoncement, de sacrifice et de consécration entière, complète et sans réserve. C'est la nature de la fin du monde, comme nous le savons en tant qu'adventistes du septième jour, depuis 1798, le temps de la fin a commencé, comme nous le voyons dans de nombreux passages, notamment dans la prophétie de Daniel, les prophéties de Daniel dans le livre du prophète Daniel, où cette période de 1260 jours nous est annoncée, et nous est également répété dans l'Apocalypse, et nous savons à travers toutes les multiples études prophétiques, toutes ces études précises, linéaires de la prophétie, que c'est cette période de 1260 jours a abouti, a pris fin en 1798, lorsque le pape a été fait prisonnier par le général Berthier. Et donc la fin du monde, depuis le début de du temps de la fin, c'est une période où la lumière sur les prophéties s'amplifierait, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, et les gens chercheraient dans la prophétie et verraient toutes sortes de choses, et notamment William Miller, à partir de l'an 1833, a commencé à exposer ses convictions que, en l'an 1844, la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 arriverait à son accomplissement. Et nous savons, en tant qu'adventistes du septième jour, que cette prophétie qui a trouvé son accomplissement, sa fin, le 22 octobre 1844, dirigeait l'attention des croyants en Dieu vers ce moment de Daniel chapitre 7, versets 9 à 14, où Jésus-Christ changerait de place dans le sanctuaire céleste. Et donc nous savons que depuis cette date, nous vivons à l'époque du jugement investigatif, où Dieu examine nos dossiers. Mais pas simplement cela, mais pour que nos péchés puissent être effacés du sanctuaire céleste, ce qu'il examine, c'est un examen dans lequel nous sommes pris à part et où il nous révèle les choses qui apparaissent dans les livres du ciel. Et donc il nous montre nos péchés, nos défauts, nos imperfections, nos terribles travers. Et il nous appelle à nous repentir et à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et cet examen, cette expérience où nous sommes soumis à la révélation de nous-mêmes, c'est la même expérience qu'ont traversé en symbole les enfants d'Israël dans leur séjour depuis l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Et on trouve cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 11. C'est juste à la suite de ce que nous lisions dans notre lecture biblique. Et là, dans ce passage, nous lisons que quand bien même ils buvaient de ce rocher spirituel qui était Christ, verset 5, mais Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication, et il y en eut 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Et donc dans cette expérience de désert, où Dieu les éprouvait pour savoir s'ils étaient dignes, propres à entrer dans la terre promise, de nombreux tombèrent morts dans le désert. Dieu ne mit point son affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Et pourquoi ces choses nous sont écrites? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme eux. Pourquoi sont-ils morts dans le désert? Pourquoi se sont-ils vus refuser par la mort l'entrée dans la terre de Canaan? Parce qu'ils désirèrent des mauvaises choses que Dieu ne souhaitait pas leur donner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait également? Ne devenez donc point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient idolâtres? Et ici, l'apôtre ne parle même pas du veau d'or. Il disait que leur idolâtrie était marquée par le fait qu'ils s'assirent pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Et nous lisons que les derniers temps seront comme les jours de Lot où ils mangeaient, ils buvaient, ils se donnaient en mariage, ils plantaient, ils construisaient, ils bâtissaient leur demeure, et quoi? Soudain, la destruction est venue et ils n'en savaient rien. Comme au temps du déluge. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient pour être comme cela, morts dans le désert, sans entrer dans la terre promise? Ils vivaient comme au temps du déluge. Ils ont adopté une manière de vivre où ils ne prêtaient attention qu'à leur plaisir. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Et donc, toutes les choses qu'ils ont manifestées dans leur rébellion, dans leur présomption, dans leur résistance et leur murmure, elles nous ont été données en exemple afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Et dans d'autres versions, nous lisons, nous qui sommes parvenus aux fins du monde. Il y a plusieurs fins du monde. Jésus, alors qu'il prêchait la venue du royaume de Dieu, disait, le royaume est proche. Et c'était une fin déjà. C'était une fin d'une dispensation. Mais maintenant, depuis 1798, nous vivons au temps de la fin, le dernier temps de la fin. Et depuis 1844, nous vivons encore plus proche, encore dans un temps encore plus avancé, dans ce temps de la fin où Dieu opère le jugement investigatif, où Jésus intercède en notre faveur pour ceux qui croient au message des trois anges d'Apocalypse chapitre 14. Donc on vit au fin du monde et l'apôtre Paul il disait cela déjà en son temps. Mais ces paroles trouvent toute leur application aujourd'hui pour nous parce que étant nous-mêmes parvenus en ce 21e siècle, indéniablement au fin du monde, plus que jamais auparavant, ces leçons, comme nous le lisions dans 1 Corinthiens chapitre 10, cela nous a été donné comme des leçons, ces exemples des enfants d'Israël, ces leçons n'auront jamais d'application plus directe qu'aujourd'hui. Cela veut dire que s'il y avait un jour où il nous fallait prêter attention à ces leçons qui nous sont données dans l'expérience des enfants d'Israël, aujourd'hui, et plus que jamais ce jour-là où il nous faut retirer ces leçons pour ne pas faire les choses qu'ils ont faites, pour ne pas être idolâtres comme ils l'ont été, pour ne pas commettre fornication comme ils l'ont fait, pour ne pas tenter Jésus comme ils l'ont fait, pour ne pas murmurer comme ils l'ont fait, et pour ne pas désirer de mauvaises choses. Les choses du monde, les choses du monde qui passent. Ils ont désiré les choses du monde et ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la Canaan. Et la Canaan, c'est pour nous le symbole du ciel. Car nous lisons à de nombreuses reprises dans l'esprit de prophétie que la Canaan céleste est pour nous ce que la Canaan terrestre était aux enfants d'Israël. Donc si ces choses étaient importantes pour eux, elles le sont d'autant plus pour nous, beaucoup plus pour nous, pour qui ces symboles sont en train de trouver leur réalisation devant nos yeux. Et dans notre expérience présente, étant confrontés à toute la lumière de la volonté de Dieu, toute la lumière, parce que Dieu a donné son dernier don d'amour dans l'esprit de prophétie. Il a donné à Ellen G. White le don de prophétie pour, pas simplement pour écrire la tragédie des siècles, mais pour communiquer des témoignages précis et tranchants, les témoignages du témoin fidèle et véritable pour nous communiquer et nous faire réaliser des choses que nous n'avions pas été prêts, pas été disposés à réaliser avec la simple parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, étant confronté à toute la lumière de la volonté de Dieu à travers l'illumination de l'esprit de prophétie qui jette la lumière sur la Bible et qui nous fait comprendre nos problèmes de caractère que autrement nous n'aurions pas discerné, étant confronté à toute cette lumière de la volonté de Dieu, nous nous retrouverons souvent confrontés à la réalité exprimée dans les paroles de Jésus. C'est ce que nous avions vu la dernière fois dans Luc chapitre 20, si vous vous souvenez. Luc chapitre 20, versets 17 à 18. Et la dernière fois, nous avions lu la parabole tout en entier, où ce maître de la vigne a confié son vignoble à des vignerons, mais que ces vignerons se sont montrés infidèles et ils ont chassé tous ses serviteurs. Et les Juifs ayant entendu cette parabole et Jésus leur ayant demandé ce que le maître du vignoble devrait faire, les Juifs ont répondu, il les détruira. Et Jésus, en les regardant, leur a montré qu'il venait de rendre jugement sur eux-mêmes, de rendre la justice sur eux-mêmes, d'expliquer pourquoi c'était justifié l'acte par lequel Dieu allait leur reprendre leurs privilèges nationaux. Et nous avions vu tout cela, et ensuite nous avons vu que cela trouvait sa conclusion dans les versets 17 et 18 où Jésus disait « Que veut donc dire ce qui est écrit ? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé et elle écrasera celui sur qui elle tombera. » Qu'est-ce que nous avons devant les yeux ici? Jésus présentait deux réponses possibles à lui-même. Deux réponses possibles à cette principale pierre de l'angle que lui-même il est, comme nous le savons. Parce que dans cette parabole, Jésus leur montrait pourquoi Dieu allait les rejeter parce qu'ils avaient rejeté le Fils de Dieu. Et ici, le parallèle, c'est que en rejetant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ceux qui bâtissaient ont rejeté la principale pierre de l'angle. Et maintenant, la fin de cette parabole, c'est que ce que nous avons devant les yeux et sur ce sur quoi on veut se concentrer tout particulièrement aujourd'hui, c'est que ceux qui rejettent cette pierre angulaire qui est Jésus, cette pierre écrasera cela. Elle écrasera celui sur qui elle tombera. Mais ceux qui acceptent Jésus, le vrai Jésus, le Jésus de la parole de Dieu, ceux-là, ils se plongeront dans la première catégorie qui nous est décrite par ces paroles. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. Et nous avions vu la nécessité, notre besoin de tomber sur cette pierre, de nous repentir, de casser notre orgueil, notre suffisance, notre attitude hautaine, de venir céder notre suffisance et notre indépendance à lui et donc faire ce qui est écrit ici, venir briser sur cette pierre, venir nous briser sur cette pierre. Ceux qui acceptent Jésus font cela. Et donc, étant confrontés à toute la volonté de Dieu, nous nous retrouvons souvent entre le marteau et l'enclume, entre le monde où la résistance, la rébellion et Christ. Et les deux issues, elles sont douloureuses. C'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde sur ce sujet aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que les deux issues sont douloureuses. Et parce que les deux issues sont douloureuses, Satan tente souvent les enfants de Dieu à préférer celle qui n'offre la douleur que plus tard. C'est très intéressant, réfléchissez-y avec moi. L'ennemi de nos âmes tente sans arrêt les croyants à chercher la satisfaction là où la douleur n'est pas immédiate. Mais sauf que quand la douleur n'est pas immédiate, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas sur le bon sentier. Parce que ceux qui viennent à Jésus et qui l'acceptent en tout ce qu'il est pour le croyant, que font-ils ? Ils tombent sur cette pierre et ils s'y brisent. Mais par contre, lorsque nous choisissons le monde, nous pouvons avoir l'impression d'être délivré de cette douleur qui ne nous semble pas nécessaire, mais l'issue finale, c'est que la pierre, pour celui qui ne s'est pas jeté de tomber sur cette pierre finira par lui tomber dessus. Et cela veut dire que l'accumulation, comme nous allons le voir, l'accumulation de résistance, de culpabilité qui n'a pas été lavée, pardonnée, viendra nous accabler. Et donc les deux issues sont douloureuses, nous venons de le voir, le monde est cruel. Le monde, il est trompeur, il est décevant. Mais il ne fait pas directement mal. Nous n'en souffrons pas directement la douleur parce que le péché est un plaisir pour l'être humain déchu. Et de l'autre côté, Jésus a sacrifié tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était, et nous appelle à en faire de même, à suivre ses traces. C'est très 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 intéressant. Cela vaut le coup pour nous de nous attarder sur ces choses pour que on puisse ressentir le Seigneur faire appel à notre intelligence par laquelle nous pouvons discerner qu'il nous aime, parce qu'il a fait ces choses qu'il nous appelle à faire et qui sont douloureuses pour nous, mais qui ont été douloureuses pour lui. Mais avant de continuer là-dedans, j'aimerais qu'on se penche aussi sur un autre exemple. C'est celui des enfants d'Israël qui ont également fait une telle expérience de se retrouver entre le marteau et l'enclume, entre deux issues douloureuses. Ou, comme le dicton le dit en anglais, se retrouver entre un rocher et un endroit difficile, between a rock and a hard place. Se retrouver entre le marteau et l'enclume. Les deux issues sont douloureuses. Nous allons pour cela dans Exode, chapitre 14, et versets 8 à 12. Et nous connaissons bien l'histoire. Dieu a délivré ses enfants d'Égypte, les a fait sortir à main levée, a fait tomber les plaies sur l'Égypte pour contraindre le Pharaon à laisser partir son peuple, et notamment à un certain moment, ils se sont retrouvés comme nous venons de le décrire, entre le marteau et l'enclume. Exode chapitre 14, versets 8 à 12. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une fort grande peur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens? Car il nous vaut mieux de servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et qu'est-ce qu'il faisait ici? Nous voulons nous tourner vers une citation de l'Esprit de prophétie dans Patriarche et Prophète, à la page 256, au paragraphe 2. J'aimerais que on laisse l'Esprit de prophétie directement jeter la lumière sur cette situation. Les Hébreux avaient campé au bord d'un bras de mer qui semblait leur opposer une barrière infranchissable, tandis que vers le sud, une montagne au flanc escarpé leur barrait le passage. Tout à coup, on vit briller dans le lointain les armures et avancer en rang serré les chariots d'avant-garde d'une armée qui, approchant à une allure accélérée, ne tarda pas à paraître au grand complet. L'épouvante gagna tout le camp d'Israël. Les uns se mirent à crier à l'Éternel, tandis que le plus grand nombre se répandait en lamentations et en plainte contre Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens? Car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et donc voilà, c'était leur réponse lorsqu'ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Lorsqu'ils se sont retrouvés, pour ainsi dire, entre le diable et la mer bleue profonde. Et alors qu'ils se sont retrouvés coincés entre le diable et la mer rouge, entre l'armée de Pharaon et la mer infranchissable, entre le marteau et l'enclume, ils se sont découragés complètement, ils se sont mis à souhaiter être restés en Égypte dans la servitude. ils se sont mis à souhaiter qu'ils étaient restés en Égypte dans la servitude. C'est ce qu'ils ont demandé, n'est-ce pas? Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte que nous soyons restés des esclaves? Et c'est souvent l'expérience qui nous arrivera, le sentiment intérieur qui nous tentera, par lequel nous serons tentés d'exprimer à l'intérieur de nous les mêmes choses lorsque nous nous retrouverons confrontés à toute la lumière de la volonté de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. Et lorsque nous nous retrouvons confrontés à cette lumière de Dieu, nous avons l'enclume devant nous et le marteau derrière nous, le diable derrière nous et la mer rouge devant nous. Mais cette condition de choses ne peut pas rester permanente. Il nous faut soit aller en arrière, soit aller en avant. La difficulté avec aller en arrière, c'est qu'il y a une mort certaine parce que nous savons pertinemment que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Parce que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous savons que ceux qui se détournent de l'esprit après avoir goûté à la grâce du salut de Dieu, ceux-là n'ont aucun espoir. Et donc nous nous détournons de cela avec dégoût et nous disons certainement pas, Seigneur, je ne veux pas aller là, mais devant nous, il y a l'enclume, il y a la mer, il y a une difficulté qui paraît infranchissable à notre mentalité naturelle. De la même manière que pour eux, sans la foi, sans la soumission, sans l'esprit d'abandon, la mer rouge leur paraissait aux enfants d'Israël comme un mur infranchissable, sans la foi. Et un autre parallèle de cela, nous pouvons le trouver dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Nous connaissons très bien l'histoire de Élie sur la montagne de Carmel et ses merveilleuses manifestations divines et spectaculaires dont il a bénéficié lorsqu'il représentait à lui seul le Dieu du ciel. Mais j'aimerais que l'on se concentre simplement sur la chose qu'il a exprimée et qui nous concerne directement aujourd'hui, à nous qui sommes parvenus aux fins du monde. On le trouve dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Et donc voilà, le prophète Élie présentait à l'Israël le terrible dilemme dans lequel il s'était plongé à force de servir le monde et de servir Dieu à la fois. Et il disait, quand est-ce que vous allez arrêter ce non-sens? Jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à boiter des deux côtés, à offrir de l'encens à Baal et ensuite se détourner et à adorer le Dieu d'Israël? Ce truc-là, là, ça peut pas durer. Et Élie dans la crainte de Dieu, a ensuite présenté un test dans lequel Baal, bien sûr, n'a pas réussi. Dans lequel le dieu Baal a bel et bien montré qu'il était un faux dieu. Et donc cela, on peut très bien s'enorgueillir de l'idée que nous sommes adventistes du septième jour, et donc forcément, nous n'adorons pas Baal. Nous adorons le vrai Dieu, le Dieu du sabbat, etc. Simplement, la réalité est tout autre. J'aimerais pour cela qu'on se tourne dans un passage, encore une fois, de l'esprit de prophétie, dans le livre Prophètes et Rois, à la page 107 et au paragraphe 2. Et donc juste à la suite, et en rapport direct avec ces paroles que nous venons de lire, d'Élie, voilà ce qui est écrit. Le peuple ne répondit pas un mot. Pas une seule personne de cette vaste assemblée n'osa affirmer sa loyauté au Seigneur. L'ignorance et l'erreur s'étaient étendues sur Israël tel un sombre nuage. Cette apostasie n'a pas fondu d'un seul coup sur le peuple, mais graduellement, alors qu'il s'obstinait à rester rebelle aux paroles d'avertissement et de reproche que le Seigneur lui adressait. Tout écart du droit sentier, tout refus à la repentance avait encore accru la culpabilité d'Israël et l'avait éloigné du ciel. Maintenant même, dans la crise que traversait la nation, le peuple s'obstinait à refuser de prendre position pour Dieu. Et quel est le lien direct avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est écrit? Le Seigneur a de l'aversion pour l'indifférence et l'infidélité manifestées au cours des crises que traverse son œuvre. Tout l'univers s'intéresse d'une manière inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui que de rester fidèle au Très-Haut? Et donc, comment est-ce que cette apostasie était venue? S'était révélé, s'était développé. Elle n'avait pas fondu d'un seul coup sur le peuple, mais, ce qui est écrit, graduellement. Comment? Alors qu'il s'obstinait à rester rebelle aux paroles d'avertissement et de reproche que le Seigneur lui adressait. Et nous, et qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Nous vivons à la dernière église, à la période de l'église de Laodicée. Et qu'en est-il pour nous? Est-ce que le Seigneur nous adresse des avertissements et des reproches? Oui, plus que jamais, plus que jamais, plus encore qu'à cette époque-là. Et il nous dit, tu es tiède, tu essaies de servir Mammon et Dieu, tu ne peux pas. Baal et Jéhovah, tu ne peux pas. Achète de moi de l'or, achète de moi un collier pour tes yeux pour que tu vois. Tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable, malheureux et nu. Et donc pour nous, l'important c'est de ne pas nous obstiner à rester rebelles aux paroles d'avertissement et de reproche. Nous avons des leçons à tirer de l'exemple qui nous est donné dans les enfants d'Israël et leur expérience. J'aimerais lire encore une fois maintenant dans Prophètes et Rois, page 140, paragraphe 4. De nos jours, comme au temps d'Élie, la ligne de démarcation entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui adorent les idoles est nettement tracée. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? S'écria Élie. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Et voici le message pour notre époque. Elle est tombée, Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. L'observance du faux sabbat nous sera imposée. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Et maintenant, écoutez bien. Ceux qui ont cédé peu à peu aux exigences du monde et qui se sont conformés à ses coutumes s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. À ce moment-là, l'or sera séparé des scories. La vraie piété se distinguera nettement de la piété apparente et fausse. De nombreuses étoiles que nous avions admirées pour leur éblouissante clarté s'éteindront. Tous ceux qui ont porté les vêtements du sanctuaire, mais qui n'ont pas revêtu la justice de Christ, apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. Et donc nous avons là quelque chose de très, très sérieux et solennel. Et vous aurez noté que le simple fait de garder le sabbat par notre présence à l'église le septième jour, cela ne fait pas de nous des personnes qui observent les commandements de Dieu. Parce qu'il est écrit que ceux qui ont cédé peu à peu aux exigences du monde et se sont conformés à ses coutumes, même s'ils ont gardé le sabbat, ils finiront par s'incliner devant les autorités, devant le faux sabbat qui sera imposé. Plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Et tout cela, c'est lié à cette réalité où Dieu nous dit de ne pas clocher des deux côtés, de ne pas hésiter entre le monde et Jésus-Christ, de ne pas boiter entre Baal et Dieu, le vrai Dieu, de ne pas hésiter entre tomber sur le rocher ou se placer dans une position à travers notre vie et nos actes et nos pensées et nos pratiques où la pierre, le rocher finira par nous tomber dessus. Vous voyez, est-ce que vous voyez que c'est ici l'appel que le Seigneur il nous lance? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et c'est très facile aussi pour nous de lire ça. Pour moi, c'est facile de lire cela. Mais quelle est la signification puissante et définitive et significative de ces paroles-là? En réalité, dans toute la pratique réelle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de suivre l'Éternel? On peut très bien dire, oh, ces gens-là, ils suivent Baal, moi je suis l'Éternel, alléluia. Non, c'est pas ça la question. C'est, est-ce que je suis l'Éternel? Qu'est-ce que cela voulait dire pour les enfants d'Israël de suivre l'Éternel? Par exemple, du temps de Élie, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire aller à l'encontre de toutes les pratiques, les habitudes, les mouvements sociaux de leur génération et de leur société. Ils vivaient maintenant dans une société où l'adoration de Baal avait pris le dessus. Il y avait plus de prophètes de Baal que de prophètes de Dieu. D'ailleurs, Élie disait, moi je suis là. Il n'y a plus que moi qui suis resté des prophètes de l'Éternel, et les prophètes de Baal, ils sont 400. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Et il était tout seul. C'était ça la condition d'Israël à cette époque-là. Et pour eux de suivre l'Éternel, c'est ça que cela voulait dire. Cela voulait dire de prendre une position où ils se retrouveraient seuls. Et vous allez me dire, mais après, le feu, il est tombé, ils ont accepté Dieu. C'est à peu près vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que ils se sont soumis à une évidence de la manifestation de Dieu auquel personne ne pouvait rien dire. Mais est-ce que ça voulait dire qu'ils s'étaient convertis? Nous n'avons aucune preuve de cela. Donc c'est bien de se sentir émoussé par des manifestations de Dieu, mais est-ce que nous suivons l'Éternel de manière continue, agressive, pour s'emparer du royaume de Dieu avec violence, comme il est écrit? C'est ça la question. Est-ce que je le fais, ça? Et donc, pour échapper à cette impasse que nous venons de décrire, les enfants d'Israël devaient passer au travers de la mer. Et vous allez voir que ici, il s'agit de l'évangile. Ce que je suis en train de vous parler, il ne s'agit pas simplement des prophètes, pas simplement de l'histoire d'Élie, pas simplement des enfants d'Israël, de manière séparée, de manière divisée. C'est l'évangile en symbole qui nous étaient présentés dans leur expérience. Et nous voulons trouver l'évangile à travers ces symboles. Parce que comme nous l'avons lu, ces choses ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus au dernier temps, qui sommes parvenus aux fins, avec un S, du monde. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, et deux. Je lis. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Nous voulons bien noter chaque aspect ici. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Et ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et quel est le sens pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cette activité dans leur expérience, c'était un symbole de l'activité spirituelle qui doit être la nôtre. Tournez-vous avec moi dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 3 à 4, pour commencer. Rappelez-vous, ils ont tous passé au travers de la mer et ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Baptisés en Moïse. Romains 6, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. » Donc quel est le sens pour nous? Comment est-ce que je peux lire cet événement dans les périples des enfants d'Israël et en retirer une leçon en lisant et en prêtant attention à ce que nous venons de lire ici? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort, est-ce qu'il s'agit simplement ici d'un acte légal? Est-ce que simplement parce que j'ai été baptisé par immersion, alors ce verset, ces paroles s'appliquent automatiquement à moi sans une activité délibérée de ma part de coopération avec Dieu dans sa mort? Est-ce que c'est ça le sens? Vous savez que ce n'est pas ça le sens. Si nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons que le baptême, c'est une profession de foi. Le baptême, il représente notre baptême en Jésus-Christ dans sa mort. Cela représente. Ça ne veut pas dire que c'est fait et que je n'aurai plus jamais rien à faire de cet acabit dans le futur. Et à l'avenir, ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est que ma profession de foi, c'est que j'ai accepté d'être plongé dans l'eau en symbole de ce que j'ai accepté de faire avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est d'accepter de faire quoi? D'accepter de faire ce que les enfants d'Israël étaient appelés à faire. Qu'est-ce qu'ils étaient appelés à faire? À traverser la mer. Par la foi. Et donc, comment est-ce que je suis enseveli avec Jésus par le baptême en sa mort? Par la foi, comme nous allons le voir, en reconnaissant que je ne vis plus pour ce monde. Comme Élie l'avait dit, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Pas si l'Éternel est Dieu, faites-vous baptiser et continuez à vivre comme vous vivez. Ce n'est pas ça le sens. Et notre baptême représente notre ensevelissement avec lui dans sa mort. Pourquoi ? Pour maintenant vivre, marcher dans une vie nouvelle. Parce que lui aussi, il n'est pas simplement mort, il a été ressuscité pour que nous aussi, en étant morts en lui, ou comme c'est écrit, crucifiés avec lui, maintenant aussi, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle, comme lui-même, il a marché de nouveau dans une nouvelle vie. Il a été glorifié après qu'il ait été enterré. Et donc, c'est une activité continue, comme nous le lisons dans les versets 6 à 12, par lesquels nous allons conclure. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Et maintenant, la pointe de la montagne dans ses paroles, verset 11, « Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. » Donc, quel est notre appel ? Notre appel, c'est de nous plonger, de passer au travers de la mer, d'être baptisés en Moïse, en Jésus-Christ. Et de nous considérer comme morts au péché. C'est ça le sens. Le sens, c'est d'être enseveli dans sa mort, en considérant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Donc comment est-ce que nous pouvons être affranchis du péché? En nous considérant comme morts au péché. Jésus, il a fait la chose. Il a fait le sacrifice. Il s'est donné pour moi, il a porté mon iniquité, tout le fardeau possible de l'humanité dans sa dégradation et sa culpabilité, il l'a porté. Il a pris sur lui tout ce qui était possible de prendre et qui était nécessaire qu'il prenne pour sauver le pécheur. Et maintenant, il me dit de vivre à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, en me considérant comme mort au péché. Ça veut dire que quand le péché vient et me présente à travers la chair, le diable et le monde, me présente tous les attraits du péché, je me considère comme mort au péché. Et qu'est-ce qui est écrit ? Celui qui est mort est affranchi du péché. Ça veut dire que si je me considère comme mort, qu'est-ce qui va se passer? Le péché, il n'a pas d'emprise sur moi parce que je suis mort. Je suis mort au péché. Mais je ne suis pas mort tout par rapport à tout. Je suis mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu viens et me communique au nom de Jésus-Christ. Comme le représentant de Jésus-Christ, comme cet autre consolateur vient et me communique les choses que Dieu veut que je fasse, je me considère comme vivant à Dieu. Et donc ce qu'il me dit, j'entends et je m'y soumets et je dis, Seigneur, je n'ai pas fait ça avant et maintenant je me considère comme mort au péché et vivant à toi. Donc vivant à lui, comment ? En considérant que tout ce qu'il me dit, je suis vivant à cela et je répondrai à cela et je me soumettrai à cela. Et vous me direz, frère Victor, c'est facile de le dire. Oui, je sais que c'est facile de le dire, mais il faut le dire et ensuite, il nous faut le faire. Parce que nous ne le ferons pas si nous ne le disons pas. Mais ensuite, quand le péché vient à nous, il nous faut répondre à l'injonction qui est ici écrite, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenu vivant et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera point sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Nous obéirons toujours à la loi de Dieu, mais en vivant à Dieu, nous ne nous placerons plus sous la condamnation de la loi en désobéissant à la loi de Dieu, mais nous vivrons sous la grâce en nous considérant comme morts au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ. Voilà le sens de ces paroles. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Puissions-nous véritablement nous considérer comme morts au péché et honorer notre baptême et notre profession de foi par une vie nouvelle à Dieu en Jésus-Christ. Qui donc me délivrera de ce corps de mort? Qu'est-ce que nous disons? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Puissions-nous épouser cette réalité et ne plus nous tourner vers les citernes crevassées de ce monde, mais boire à la source de vie, Jésus. C'est ma prière. Amen.